téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Une très chère. C'est un instant. Allô.
9h41 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Jusqu'en 1981, on parlait de maladies psychiatriques où on ne parlait pas. Il n'y avait pas de mots, pas d'espace de parole, ni d'espace social pour exprimer son homosexualité. Pire, il n'y avait pas d'espace mental pour la ressentir et la penser. Les Invisibles fait raconter à des homos de 80 balais la trajectoire de sexualité née sous silence. Ce qu'ils ont connu de rejet, de tabou, comment ils ont gravi une à une les marches du plaisir et de la liberté. Ce documentaire très beau a été fait pour le cinéma. Il passe pour la première fois sur une grande chaîne de télévision, en clair, accessible à tout le monde. Ainsi, Les Invisibles s'offrent-ils au regard de tous, comme si la boucle était bouclée, comme si la liberté se doublait de l'ultime visibilité, la télé. Bonjour Sébastien Lifshitz.
Bonjour.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. France 2 programme d'abord une fiction avec Patrick Timsit, puis un débat, puis votre film Les Invisibles, César du meilleur documentaire.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Il y a des milliers de voitures dans cette ville. Et là, elles m'obéissent toutes.
Maintenant, je sais ce que ressentent les flics qui nous prennent en chasse. Fred.
J'aurais peut-être dû vous prévenir, ceci n'est pas du tout un extrait des Invisibles, mais de Fast and Furious. Pourquoi ? Parce que c'est à lire ce matin dans le Figaro Économie, après avoir frappé très fort dans le foot en raflant les droits de diffusion de la Ligue des Champions, et c'est faire profit du Festival de Cannes pour s'imposer dans le cinéma et les séries. Lancement de la chaîne SFR Studio, proposant chaque année 400 films et séries. Rappelons que SFR a déjà signé un accord avec le studio NBC Universal. Là encore, ils l'ont raflé au nez à la barbe de Canal+. Et dans ce catalogue, eh bien, on trouve du Jason Bourne, du Moi moche et méchant ou encore du Fast and Furious. Continue la revue de presse. Libération publie une longue tribune signée Michel Field, qui est le directeur de l'information France Télévisions. Il ne manque pas de s'envoyer des fleurs, soulignant tant la puissance déterminante du média télé dans cette campagne que la façon dont ses propres chaînes ont donné le tempo. Mais il dit aussi avoir invité les journalistes de France Télévisions à tirer un bilan critique avec lui de cette période, marquée, dit-il, par une violence inédite des rapports entre médias et politiques. Il en appelle donc à la future Assemblée nationale afin que des rencontres soient organisées entre représentants de politique et représentants de médias. Alors, c'est le hasard, Sébastien Lifshitz, cette tribune de Michel Field, mais j'ai relevé une phrase que Libération a également mis en exergue. Je vous la cite. « Comment rendre visibles les invisibles, ces millions de Français qui ont le sentiment que les journaux télé ne parlent jamais d'eux ?» Et je me suis demandé si vous vous étiez posé cette question à l'occasion de la diffusion des Invisibles à la télévision. Est-ce que la télé, c'est l'ultime sociabilité, l'ultime visibilité justement dans nos sociétés ?
Ça le reste, je pense, quand même, oui, beaucoup ça le reste, encore hein. Aujourd'hui. Oui. Et moi, je suis très heureux que... Enfin, le film passe en clair. Oui. Il était passé sur Canal peu de temps après sa sortie. Mais là, c'est vraiment la chance qu'a le film de pouvoir toucher un maximum de gens. Et surtout de diffuser cette parole qui était quand même inédite, inattendue, de gens qui ont 80 balais, comme vous dites, et qui parlent vraiment de tout.
Voilà, certains sont morts d'ailleurs depuis le film. Vous vous interrogez, vous, sur ce que montre la télévision française aujourd'hui de ce sujet que vous avez creusé, labouré, film après film ?
Sur l'homosexualité, oui, vous voulez dire ?
Oui. Puisque tout est question de représentation dans votre travail. Vous êtes partie de la photo, vous avez travaillé pour le cinéma. Aujourd'hui, le film est à la télé. Et la question du support pose aussi la question de la représentation et de ce qu'on véhicule comme image, comme message.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je regarde surtout le net, dans le fond, et je me renseigne, je me documente, surtout à travers tout ce que je peux trouver sur le net. Et d'ailleurs, la télévision, je la regarde sur mon ordinateur, je la regarde plus devant un écran de télé classique. Mais c'est vrai qu'en France, sur la question de l'homosexualité, ça reste quand même très pauvre, tout ce que je peux voir, sauf quelques exceptions qui, évidemment, me réjouissent. Mais c'est quand même souvent, je trouve, très pauvre et assez stéréotypé. Bon, par exemple, il y a un personnage que moi j'aime beaucoup dans la série 10%.
Oui, qui vient juste de s'achever sur France 2, qui est le personnage interprété par Camille Cotin, j'imagine,
oui.
Agent d'acteur, lesbienne, totalement assumée, totalement nature, totalement cash.
totalement cache, mais qui en même temps peut s'envoyer en l'air avec un mec à l'intérieur du film. Et ces éléments-là viennent comme perturber une identité qui est justement peut-être plus complexe qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut voir autour de l'homosexualité me semble plus pertinent et parfois même incroyablement fort aux États-Unis, notamment dans les séries. Je pense à une série par exemple comme Transparent, qui est une série que je trouve incroyable à la fois sur l'homosexualité, mais aussi sur la transsexualité. Tout y est abordé. En plus, toujours à travers ce prisme qui fascine les Américains, qui est la question de la famille. Parce que dans le fond, Transparent, on a beaucoup fait sur... la presse a beaucoup parlé de la question de la transsexualité à travers cet homme qui annonce à ses enfants et à tout le monde qu'il veut devenir une femme à 65 ans. Mais c'est à travers cette annonce et cet homme qu'on fait le portrait d'une famille moyenne américaine à Los Angeles.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais TF1 a tenté la même chose. Ça s'appelle Louise. Le personnage était interprété par Claire Neubou. Mais là, pour le coup, le traitement était extrêmement pauvre et distancié, justement. Bon, voilà, il faut que ça évolue, hein. C'est ça, il faut que ça évolue un petit peu. Lorsqu'il est sorti au cinéma, votre film Les Invisibles, il a percuté de plein fouet. C'était un hasard, les manifs contre le mariage pour tous. On était en novembre 2012, la loi venait juste d'être déposée au Parlement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, le contexte social dans lequel arrive un film, Sébastien Lifshitz.
Ça nous avait même fait un peu peur parce qu'au bout d'un moment, le film n'était vu qu'à travers ce prisme-là. Quand on allait faire la promotion du film, les médias évidemment étaient très focalisés sur cette question. Et ce qui était étonnant, c'est que les témoins du film, qui donc avaient autour de 80 ans, eux avaient milité contre le mariage à leur époque. La position de beaucoup d'homosexuels à ce moment-là était évidemment de rompre ce sacro-saint modèle de la famille patriarcale avec l'obligation pour les femmes de se marier. Et évidemment, eux considéraient qu'il y avait une sorte de... comment dire, d'obligation à se conformer. Et pour eux, le mariage était une institution qu'il fallait absolument combattre. Et parfois, quand on les invitait sur les plateaux de radio ou télévision, certains témoins comme Thérèse ou Monique disaient à la fois leur stupeur de cette revendication par rapport à leur génération.
Oui.
Et en même temps, ils pouvaient la comprendre parce que ça expliquait aussi à quel point la société avait changé et comment les homosexuels, quand même, s'étaient fondus dans la société et étaient devenus progressivement des individus comme tous les autres.
Alors, on va entendre justement Monique. La mère de Monique n'avait pas accepté l'homosexualité de sa fille. Ça a été très grave, très dur à vivre. Pour Monique, vous allez l'entendre parler de mère en général, c'est très étonnant.
Une jeune femme que je venais de rencontrer, avec qui j'ai eu une relation quelque temps, et qui me dit « Ce soir, on est invité chez ma mère. » J'ai dit « Mais moi aussi. » « Oui, ma mère est au courant, il n'y a pas de problème. J'ai déjà amené d'autres filles, elle est d'accord. Ma mère, elle sauve. Tu peux venir manger à la maison. » Je ne voulais pas d'une mère comme ça. Je ne voulais pas de cette mère-là. Je suis jamais allée dans cette famille qui était capable de me comprendre. Pourquoi ? Je ne saurais pas dire. Parce que j'avais pas cette chance, ou alors parce que j'aimais cette mère comme elle était, qui me laissait un pied dans l'hétérosexualité, tu vois, qui m'empêchait, de par ce refus de comprendre, de délirer dans un monde fermé, tu vois. Et la mère qui disait, mais oui, mais pourquoi pas ? J'en voulais pas. Est-ce qu'on peut imaginer un tel paradoxe ?
Voilà, ce film est plein de paradoxes. Sébastien Lifshitz, vos personnages sont tous nés dans l'entre-deux-guerres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent de milieux sociaux très différents. Il y a les enfants d'ouvriers communistes qui ont eux-mêmes milité au parti. Il y a ceux qui ont grandi dans de superbes bastides élevées par des grands bourgeois. Il y a ceux qui ont eu des enfants très douces. Thérèse raconte des parents qui se sont aimés toute leur vie. D'autres, des enfants terribles. Une mère qui a tenté d'avorter, qui n'a pas réussi, qui a refusé de nourrir son enfant pour ne pas le laisser grandir. Vous vouliez de cette diversité-là, justement, pour pouvoir pénétrer des paradoxes qui ne sont pas liés à la situation sociale, mais vraiment à l'humain, dans ce qu'il a de plus intime et de plus profond.
Ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'homosexualité, évidemment, il y a beaucoup de clichés qui ont été fabriqués à travers le temps. Et moi, j'ai essayé d'ouvrir vraiment le spectre social et géographique du film le plus possible. Donc, aller chercher l'homosexualité à la campagne, dans des villes moyennes, pas seulement dans les villes où, évidemment, on pense trouver tous les homosexuels qui, évidemment, sont venus là pour vivre dans l'anonymat et qu'on leur foute la paix pour vivre leur sexualité et leur vie tout court, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant toute la recherche des témoins, qu'il y avait, en fait, beaucoup d'homosexualité sur des territoires auxquels on ne penserait pas, et notamment le monde rural, où elle est très présente depuis très longtemps et peut-être beaucoup plus acceptée qu'on imagine.
Alors on peut entendre l'un de vos témoins, justement, qui est un monsieur très, très âgé, très drôle, très libre, très frais. Lui, il a grandi au milieu des chèvres, et d'ailleurs, il s'occupe toujours des chèvres.
Moi, j'ai toujours vu un taureau sauter une vache ou un bouc prendre une chèvre. Donc, j'ai toujours su que c'était fait pour quelque chose, tu vois. Et alors, non seulement, mais par exemple, le bouc se masturbe comme nous. Et il se suce comme nous, ce qui est quand même bizarre. Et ça, un jour que tu viennes, au moment des chaleurs, si le bouc n'a pas de chèvre, ben, il se retourne et il se suce pour se faire décharger, quoi. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir deux pattes ou quatre pattes. C'est la nature qui veut les choses.
Qu'est-ce qu'il est cru, votre Pierrot, et qu'est-ce qu'il est drôle, et qu'est-ce qu'il est léger. Je pense que c'est un film qui est aussi très universel, au-delà de la question de l'homosexualité, parce que c'est un film qui raconte l'histoire d'une génération, d'une éducation à la française, à travers son rapport au corps, son rapport au sexe, son rapport au tabou, très au-delà de l'homosexualité, Sébastien Lifshitz.
Bah, c'est un film qui essaye de retracer à travers justement un prisme particulier qui est donc l'homosexualité, une histoire de France et son évolution.
Oui.
Et je trouve que c'est intéressant parce que quand vous parlez de l'homosexualité, vous parlez aussi de la relation qu'ont eu ces homosexuels avec ce qui les entourait. Mm-hmm. Donc que ce soit leur famille, leur monde professionnel et la société dans son ensemble. Et c'est ça que le film observe et raconte.
Ces pères qui étaient tout dans l'autorité et qui ne pouvaient pas parler, ces mères qui avaient les règles de leurs filles en horreur, ces enfants qui sont construits dans la naïveté, dit Christian, c'est-à-dire complètement coupés des réalités du corps, de leur corps à eux et en même temps du monde.
Mais on parle souvent d'une France laïque, mais on se rend pas compte à quel point d'abord le poids de la religion a été très présent, et l'est encore, je pense, dans les éducations. Mmh. Et comme l'intimité, et là il s'agit pas d'homosexualité, mais non. Comment l'intime, en fait, n'était pas du tout échangé, en fait. On ne parlait pas de sexualité, très peu de choses intimes d'une manière générale, c'est ce que tous m'ont raconté. Et évidemment, quand on ressentait au plus profond de soi un désir qui semblait pas... normal ou normé, le parcours devenait évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, comme quelqu'un comme Monique a toujours su depuis sa plus tendre enfance qui elle était, et avec le caractère qu'elle avait, elle a su dans le fond affirmer.
Mais c'est très émouvant parce qu'elle raconte avec un immense sourire à quel point elle a toujours désiré les petites filles. Elle s'est toujours projetée en train de faire l'amour avec une petite fille alors que on ne lui en avait jamais parlé. Elle n'avait aucune représentation de ça, aucune image. Je vous propose d'écouter Thérèse. Elle se marie à l'âge de 20 ans et elle a 4 enfants.
Je me suis rendu compte très très vite que j'allais être enfermée pendant des années. Alors, c'était une douleur sourde, mais je ne lui donnais pas de nom. Je n'arrivais pas à la formuler, cette douleur. J'avais une partie de mon désir qui avait dû être tuée, qui était mort, parce qu'il a été tué. Et de cette sexualité polymorphe si chère à Freud, les parents arrivent à faire de vous quelqu'un de parfaitement conforme. Et quelqu'un qui sait faire taire son désir. Mais tout ça, je l'ai compris des années après.
C'est ça que raconte ce film Les Invisibles, Sébastien Lifshitz, c'est où vivre son désir. C'est-à-dire qu'on sent bien dans votre film qu'il n'y avait ni d'espace social. Vous filmez quand même des femmes qui ont été virées de leurs entreprises, un homme qui était viré du Parti communiste parce que homosexuel, ni d'espace intime, même à l'intérieur de soi, on ne pouvait pas le vivre.
Oui, bah, de toute façon, il y a eu un combat à mener. Les femmes ont quand même mené un double combat. C'est déjà avoir un statut social, être totalement libre par rapport au travail, ne pas être assignée à un rôle forcément de mère. Par exemple, pour Thérèse, tout était politique. À partir du moment où elle a divorcé, elle a considéré que pour elle, être une femme n'équivaudrait plus jamais à être une épouse, une femme soumise et qui, comment dire, ne fait pas de vagues d'une certaine façon. Au contraire, elle s'est révoltée par rapport à toutes ces obligations, ces injonctions qui sont faites aux femmes, et elle a voulu vraiment pleinement s'engager dans la vie militante et construire une famille, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire vraiment une communauté. Et elle a d'ailleurs imposé à ses enfants cette vie, cette drôle de vie, où tout d'un coup venait chez elle des intellectuels, le clodo en bas de la rue.
Et d'ailleurs, le militantisme des années 68 et après surgit très progressivement dans votre film. C'est-à-dire qu'il n'arrive qu'à la moitié du film. Thérèse, Monique, les Gouines Rouges, les chants militants, les luttes pour l'avortement. Ça arrive très progressivement parce qu'on part de l'intime justement pour arriver à la cause politique.
Et puis tous ne sont pas passés par le militantisme. Non. C'est quand même très important de dire qu'il n'y a pas un destin homosexuel. C'est-à-dire que chacun l'a vécu à sa façon et les chemins ont été différents pour chacun. Et les luttes, qu'elles soient intérieures, personnelles, ont évidemment été différentes. Mais au bout du compte, les gens que j'ai rencontrés, pour la très grande majorité, ont réussi à s'accomplir et à vivre pleinement ce qu'ils étaient. C'est ça que je trouvais magnifique.
Alors,
en fait,
les uns dans un grand épanouissement, les autres dans d'effroyables douleurs psychiques. C'est les témoignages de Christian, la souffrance, la dépression dans laquelle il est tombé, parce que lui, justement, était extrêmement seul, refusait l'intime. Et le fait de refuser l'intime fait que, de toute façon, il ne pouvait pas socialiser sa cause, ni sa trajectoire.
Non, mais c'est évident qu'il y a eu une souffrance, qu'il y a eu une lutte, mais je dirais que dans tout... Enfin, la vie, en général, ça, c'est un cliché que je veux dire, mais est une lutte. Je veux dire, s'accomplir, être soi, de toute façon, est une lutte. Alors, encore plus, évidemment, quand il s'agit d'homosexualité. Mais Christian, à un moment, a enfin assumé et a pu affirmer au grand jour ce qu'il était. Donc, il a réussi à s'accomplir pleinement. Mais c'est vrai que le chemin a été semé d'embûches, particulièrement parce qu'il venait d'un milieu qui était celui de la grande bourgeoisie provinciale. Et il a dû lutter contre le regard des siens, et notamment aussi cette éducation religieuse qui a fait peser sur lui une culpabilité très très forte.
Il y a eu une suite à ce film, Thérèse Claire, qu'on a entendu, vous a rappelé quelques années après. Elle était en train de mourir et elle a voulu que vous la filmiez jusqu'au bout.
Oui, alors ça a été un projet assez fou. Thérèse, en fait, a ressenti, je pense, le besoin d'inventer un dernier geste politique en me laissant la filmer dans les dernières semaines de sa vie. Oui. Pour parler justement de ce que c'était qu'une fin de vie et comment on pouvait mourir debout, en faire quelque chose et continuer à militer jusqu'au bout.
Ça s'est appelé Les Vies Thérèse, ça a donné un documentaire sur Canal+, et je me souviens, Libération avait titré Thérèse Claire, la lutte finale. Merci beaucoup Sébastien Lifshitz. Donc Les Invisibles est diffusé ce soir sur France 2 à 23h45. Si ça fait tard, c'est pas grave, il y a le replay et vous avez une semaine pour le regarder, pour en profiter, parce que c'est un film magnifique.